Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette séance du cycle Contre-champ, lutte collective, film féministe, organisée par la Cinémathèque du documentaire à la BPI. Alors la programmation a commencé en avril, mais elle continue jusqu'au 4 juillet, donc vous êtes bienvenue en salle jusqu'en juillet. Et pour celles et ceux qui viennent pour la première fois, comme chaque soir, je vais expliquer juste brièvement le principe de cette programmation. Elle part d'une exploration d'un fonds de film, celui du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui est une structure qui a été créée en 1982 par trois cinéastes et militantes féministes, Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Johanna Wieder. Et donc, elles ont créé cette association avec la mission de conserver et d'archiver des bandes vidéo féministes et militantes, et aussi de former à la technique et de produire des films en vidéo légère. Et donc, aujourd'hui, le catalogue du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir continue de s'enrichir, et il constitue un véritable patrimoine audiovisuel. Et donc l'idée de cette programmation, c'était de mettre en dialogue les films de ce catalogue avec des films extérieurs et aussi tisser des liens entre les générations, les différentes pratiques artistiques et par-delà les frontières. Et donc au sein de ce catalogue du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, il y a un très grand film-essai qui explore le langage cinématographique pour proposer des alternatives au schéma narratif dominant, Riddles of the Sphinx. Ce film, il a été réalisé en 1977 par Laura Mulvey et Peter Wallen, deux intellectuels britanniques qui écrivent sur le cinéma. Et je vais notamment citer un texte fondateur écrit par Laura Mulvey, publié en 1975 dans la revue britannique Screen, Visual Pleasure and Narrative Cinema, qui est certainement un des premiers articles à analyser la manière dont la forme des films est influencée par l'inconscient de la société patriarcale. Et donc, Laura Mulvey et Peter Wallen ont écrit, mais ils ont aussi tenté de... ils ont tenté de déconstruire ce que le cinéma peut véhiculer comme représentation et tenter de faire des images aussi des objets politiques. Et ils décident donc aussi de passer de la théorie à la pratique en co-réalisant six films entre 1974 et 1982, dont le film que vous allez voir ce soir. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir d'être en présence de Laura Mulvey, que je remercie infiniment d'être venue de Londres pour partager avec nous ses réflexions. Donc Laura, je t'invite, can you come with me to speak a little bit and make an introduction?
First of all, I have to merci infiniment to Marion Bonneau for programming this film and for inviting me over to present it. It's a real wonderful moment for me to be here and to be part of the series Contre-champ, lutte collective, film féministe. I'll just finish my thanks, but I also have to thank Nicole, Nicole Fernandez-Ferrer, who's here, for having selected this film originally to be in the archive Simone de Beauvoir, and for having looked after the film so wonderfully and having even had it subtitled in French, so it's available to francophone audiences.
Alors d'abord, merci donc à Marion Bonneau d'avoir choisi de montrer le film dans ce cycle, donc Contre-champ, lutte collective, film féministe. C'est vraiment un honneur d'être invité dans ce cycle. Et merci aussi à Nicole Fernandez-Ferrer, donc du Centre de Visuel Simone de Beauvoir. Merci d'avoir choisi ce film pour faire partie de vos archives, de le rendre disponible à un public francophone, notamment en l'ayant sous-titré. Donc merci beaucoup.
Now, I wanted to give quite a short introduction, but one which also gives the context in which this film was made. So I'm not going to say much about the film. I'll come back for a Q&A after the film so we can talk about it then. I want to try and explain how this film came to be made and how Peter and I became filmmakers. Key to understanding Riddles is that it's a film of its moment, located in place and time, UK, 1970s.
Alors je vais brièvement introduire le film, plus parler du contexte de fabrication du film que du film lui-même, puisqu'on aura un débat après. Donc je vais essayer de relater un petit peu le contexte dans lequel on a fait ce film donc avec Peter, comment on est devenu réalisateur, parler d'un moment très précis dans l'histoire, à un endroit aussi précis, les années 70 en Angleterre.
So, what was this context? What was this moment of the mid-1970s in the UK? It was opening new horizons of political thought that, new horizons of political thought were opened up by the impact and the influence of the women's liberation movement. Also, new horizons of possibility were opened up by new cinema movements. Looking back retrospectively across almost 50 years, I'm struck by this double influence. Not only that these two cultural and political contexts opened up at the same time, but also the dialogue with teen between each other. In a sense, this was inevitable, and I'll just give 4 points to explain why.
Alors, quel est ce contexte ? C'est une période précise, donc le milieu des années 70, à un moment où il y a eu un nouvel horizon qui s'est créé dans la pensée politique. Ça a ouvert beaucoup de possibilités, notamment le mouvement de libération des femmes et concomitamment le mouvement de tous les nouveaux cinémas qu'on voyait apparaître. Et ça me frappe beaucoup de voir comment, presque 50 ans après, on a cette double influence qui reste très palpable dans les films de cette époque. Le versant politique, le versant culturel et le dialogue qui existe entre ces deux univers.
Okay, so first, the moment of the women's liberation movement. Now, there's so many influences, so many impacts, but I am isolating one in particular. Formulated under by the women's movement for the first time, to my mind at any rate, was a politics of representation. That is, if there was a feminist politics of women's bodies as a site of oppression and thus struggle, this was necessarily extended to a politics of images of woman. Produced by patriarchal culture, these images of women's bodies were also a site of oppression and thus of struggle. Maybe this is obvious now, but at the time, this seemed to be a breakthrough which brought theoretical issues into the activism of the women's liberation movement.
Alors, d'abord, si on s'intéresse donc au mouvement de libération de la femme à l'époque, il y a eu énormément d'impacts qui ont découlé de ce mouvement, mais je vais m'intéresser particulièrement à un des aspects. C'est la première fois, à mes yeux, qu'on a mis en place une forme de politique de représentation. Alors, aujourd'hui, ça paraît évident de dire que effectivement, il y avait un mouvement de lutte qui se faisait face à cette oppression patriarcale dans la représentation des corps féminins. Mais à l'époque, on a vraiment vécu cette révélation comme une forme d'avancée.
And these kinds of questions had particular significance for those of us who thought of ourselves as cinephiles. So at this time, Peter and I were both writing. We were writing about the new cinemas. Peter was writing his essay on Godard, counter cinema. I was writing the visual pleasure narrative cinema essay that Marion referred to a moment ago. But my essay was also a plea for an alternative cinema, a feminist cinema, visualizing the new conditions under which that cinema could flourish. a cinema of counter strategies, a negation of the dominant for an alternative.
Alors, ces questions, elles avaient un impact particulier pour les cinéphiles de cette époque. Peter et moi, on écrivait des textes qui s'intéressaient particulièrement à ces nouvelles formes de cinéma. Peter, lui, écrivait sur Godard, sur le contre-cinéma. Moi, comme Marion l'a mentionné, j'ai écrit à cette époque l'article sur le plaisir visuel, effectivement, mais je le voyais comme un plaidoyer pour la création d'une forme de langage cinématographique féministe, qui était pour moi un petit peu la condition pour que puisse exister cette forme de contre-cinéma, de cinéma alternatif.
Okay. So Peter and I could have stayed writing, we could have stayed as theorists, but my second point, this was also a moment for a UK experimental film movement, changing conditions of filmmaking that made it possible for us, Peter and me, to make the move from writing about film theoretically to making theoretical films.
Alors, ça nous amène au deuxième point, parce qu'effectivement, Peter et moi, on aurait pu s'en tenir à la théorie, à la rédaction d'articles sur les films, mais on était à un moment précis dans l'histoire du cinéma expérimental anglais, et on a voulu faire cette transition de l'écriture à la fabrication de films.
So, around the mid-decade, around 1974, there was a flourishing experimental film movement, which not only consisted of people making films, but also, and I think it's important to emphasize this, it was a moment of critical writing about radical film, of programming new national, international cinemas, screenings, film festivals, seminars, debates. To reiterate, a film culture had developed in the UK during the 70s to which we could belong and to which we could even, we gradually realized, participate practically as well as critically.
Alors, on a eu une révélation autour de l'année 74, c'est-à-dire qu'il y avait cette scène expérimentale qui était extrêmement importante, non seulement au niveau de la production cinématographique, mais aussi tout le regard, l'appareil critique qui se mettait en place autour de ce cinéma radical, que ce soit un travail de programmation de films anglais et de films internationaux, mais aussi par le biais d'organisation de festivals, de séminaires, de débats. Il y avait une vraie culture en pleine expansion dans le cinéma anglais, et à ce moment-là, non seulement on a eu un fort sentiment d'appartenance à ce mouvement-là, mais aussi petit à petit, on s'est dit qu'on allait pouvoir intégrer ce mouvement d'un point de vue pratique et celui de la fabrication.
Thank you. So, thirdly, this was a foundational moment for thinking about women and cinema together. So, to my mind, for the first time, women began to make films within the collective consciousness of a women's movement. As with the Other Avant-Garde movement that I mentioned just now, there was a variety of commitments and activities. Again, a critique of patriarchal cinema, bringing lost films by forgotten women filmmakers back into history, women and film events, women's film festivals, and so on and so on. So the questions arose, what new symbolizations, what forms of language would be relevant?
Ce qui nous amène au troisième point, on se retrouve dans un mouvement effectivement fondateur, dans une réflexion sur la place des femmes dans le cinéma. Il y a de plus en plus de réalisatrices à cette époque qui se sont mis à faire des films au sein de ce mouvement, de cet élan collectif, qui s'inscrivait dans une réflexion sur l'avant-garde, qui épousait une diversité de nouveaux sujets, notamment dans une dimension critique des films du passé, qui avaient une approche peut-être patriarcale. Et puis aussi un regard, notamment par le biais de festivals, de programmation, de réalisatrices qui avaient été oubliées dans l'histoire du cinéma. Et donc à ce moment-là, on se demandait voilà, quelle perspective allait arriver.
Finally, this moment that I've been trying to evoke, this movement of that moment, was underpinned, had essentially structured by 16 millimeter sync sound cameras, central, critical importance, and especially for the newly emerging women cinematographers. This light, informal technology had a comparatively short life within the history of cinema. But if the spirit of radical aesthetics, feminist aspirations, utopian confidence marked the 1970s experimental cinema, then so did its technology.
Alors, enfin, il y a un dernier point sur lequel je veux parler, que je veux mentionner, c'est en fait une avancée technique qui a rendu possible ce mouvement de cinéma fait par des femmes, c'est les caméras en 16 mm avec le son synchronisé, qui a notamment permis aux chefs opératrices de se lancer dans la fabrication de films. Relativement à l'histoire de la technique cinématographique, c'était une période assez courte, mais c'est vraiment ce qui a ancré une sorte de confiance utopique et qui a permis l'avancée à cette époque, dans les années 70, de cet élan cinématographique.
Okay, so I'm just going to say a couple of things as an introduction to the film itself. Most of it I can talk about later, but I wanted to say that for Peter and me, I think obviously we were influenced by the counter-strategies of the avant-garde. We were interested in alternative forms of editing, but there were two principles that were close to us personally: symmetry and hybridity.
Alors, quelques mots sur le film lui-même, même si on en parlera évidemment après. Je pense que Peter et moi, on était très intéressés par les contre-stratégies avant-gardistes et l'idée d'un montage alternatif, mais on était surtout focalisés sur la symétrie et une certaine hybridation dans notre réalisation.
So, when you're watching the film, perhaps you'll note it has the structure of a pyramid, relating kind of metaphorically perhaps back to the Sphinx, but it has two symmetrical sides with rhyming chapters. Sometimes I've described it as a palindrome, but I think the visuality of a pyramid would be more suitable.
Et vous le verrez en voyant le film. Le film a une structure pyramidale. On y fait référence notamment par la métaphore du sphinx, mais je le vois vraiment comme deux faces symétriques. Le film est une tentative poétique. On pourrait parler de rime. Parfois, je présentais le film en parlant de palindrome, mais je pense que cette image de la pyramide est peut-être encore plus parlante.
Hybridity, I think, is obvious. For Peter and me, the cinema, the experimental cinema that we were trying to make was an impure cinema, an imperfect and impure cinema, broken up into chapters, made up of different kinds of material, found footage, direct address, foregrounding of medium specificity, found footage, perhaps I said that, quotations, citations, etc., etc.
Vous verrez, cette forme d'hybridation, elle est évidente dans le film. Le cinéma expérimental qu'on tentait à cette époque, c'est un cinéma qui est impur, qui est imparfait, qui est fait de chapitres. Il y a une hybridation de formats, on a des images d'archives, des adresses frontales à la caméra, des citations aussi.
And also, very important to incorporate words and language as image and voice, images of words and language through voice. Also, it was important to include storytelling and performance.
Parmi les choses qu'on a essayé d'intégrer à ce film, il y a l'importance du mot et de la langue, des images de mots que vous allez voir aussi, le langage qui est présent par la voix, tout en gardant une dimension narrative et performative.
So, just to say something about the importance of collaboration in the films. There was obviously collaboration between Peter and me as authors, as writers, and as directors. But Diane Tamiz, the cinematographer, was essential to the development of the film, and her ingenuity and her determination in creating the 360-degree pans was something on which the film completely depended.
Alors c'est un film qui repose évidemment sur un fort travail collaboratif, évidemment entre Peter et moi pour la conception et la fabrication du film, mais aussi Diane Tamez qui était notre chef opératrice. Et le film doit beaucoup à son ingéniosité et sa détermination dans la confection des panoramiques à 360 degrés que vous allez voir. Le film repose beaucoup sur ça.
About these other ones, I can say more if you want more information in the Q&A. But Mike Ratledge was the composer of the electronic music score. He had recently left a group called The Soft Machine, and we approached him, and he agreed to compose the music, which is makes a very important contribution to the film, a whole kind of musical element.
J'en parlerai plus dans le débat après la séance, mais le musicien qui a composé la bande-son aussi, qui sortait d'un groupe, qui venait de partir du groupe qui s'appelle les Soft Machines, on lui a proposé d'écrire la bande sonore du film, et son impact a été extrêmement important parce qu'on tenait aussi à ce qu'il y ait une écriture musicale dans le film.
Mary Kelly, conceptual artist, who had just had an exhibition at the Institute of Contemporary Arts at London about called the postpartum document, also tracing postpartum trajectory through the Oedipus complex and questioning the conventional Freudian pattern, something which we were also doing the same kind of thing. Finally, I just wanted to mention Peter, who was also, as well as collaborator on the film in general, was also the writer. Peter had been a writer of poetry, stories, and as a journalist for some years before we started to make movies. He was particularly interested in experimental writing, and it's his writing in the various voiceovers of the Sphinx that's really makes a very particular contribution to the film as a whole. And that's all I'll say for now.
Alors, il y a aussi l'apport de Mary Kelly, donc, qui est une artiste conceptuelle qui avait à l'époque une exposition à l'Institut d'art contemporain de Londres sur l'art, ce qu'elle appelait l'art postpartum, autour du concept d'Oedipe et de ce motif freudien qui nous parlait beaucoup. Et puis je voudrais saluer enfin la contribution de Peter, qui non seulement a conçu le film, mais qui était un auteur très, très important de poésie, qui a écrit beaucoup d'articles journalistiques, qui était très expérimenté et qui s'intéressait beaucoup à l'art expérimental, et c'est à lui qu'on doit les voix off qui structurent le film. Donc voilà, donc c'est tout pour cette introduction.
Merci de nous avoir retrouvés pour cette conversation. Je serai là aussi pour vous passer le micro dans la salle pour que vous puissiez vous poser des questions à Laura. Moi, je vais commencer la conversation en disant que voilà, c'est un film que on peut voir et revoir, qui pose toujours des questions et qui reste assez, comment dire, à la fois qui nourrit à chaque fois et qui chaque fois reste mystérieux. Tout à l'heure, Laura, vous parliez d'une construction du film en forme de pyramide. Je me souviens que le souvenir qui m'a laissé longtemps, c'est aussi celui d'une spirale. Et je m'étais toujours demandé comment cette idée de filmer ce mouvement en 360 vous était venue, parce que j'y voyais quelque chose aussi de l'ordre du sens même de la révolution, c'est-à-dire de quelque chose qui tourne, voilà. Comme les astres font une révolution, et bien voilà. Et je me demandais d'où était venue cette idée du mouvement en 360 qui m'a donné et qui m'a laissé ce souvenir d'un tourbillon ou d'une spirale, et aussi peut-être de quelque chose qui permet peut-être plus de collectif.
You're asking. where did the idea for the circle pans, circular pans, come from? Because it reminded you of, and I didn't quite...
Of like planets in a revolution, the very meaning of revolution of planets, and also the
revolution of the planets. That's a very interesting idea, yeah. I don't think we thought of that at the time. Okay, so to begin with, I need to say that one of the ways in which Peter and I wanted to challenge traditional cinematic style was by challenging the conventions of editing.
C'est une idée intéressante, cette idée de révolution qui fait penser à la révolution d'un astre. On n'y a pas forcément pensé à l'époque. Je pense qu'un des aspects qui nous intéressait, Peter et moi, en faisant ce film, c'était de penser à comment est-ce qu'on pouvait défier les conventions traditionnelles du cinéma et notamment les conventions traditionnelles du montage.
And in our first film, we used the actual 16mm 10-minute reel as our basic unit. And in this film, we wanted to challenge editing, but also do something more cinematic and less return to zero. And the 360-degree pans emerged out of that.
Alors le premier film qu'on a fait, on avait pris comme idée un peu matricielle l'idée de la pellicule 16 mm, la bobine dure 10 minutes, donc à chaque fois on avait des plans qui duraient 10 minutes comme ça, comme une unité de mesure qu'on s'était imposée. Dans ce film-là, on a voulu aller plus loin en essayant de défier les conventions du montage, aller plus loin dans cette espèce de challenge cinématographique et de revenir comme ça toujours au point de départ, d'où l'idée d'un panoramique littéralement à 360 degrés.
It was also a way of challenging how the camera articulated the look, the gaze of the cinema, and that the presence of the camera would be very consciously there for the spectator. But when we saw the results of the pans, we felt that this wasn't so much the case, and all the thoughts that we originally had were much more to do with style and strategy, and it was only later that we thought about the significance of the circles, and I can now add to all the significances the celestial movement of the planets.
Alors, c'est vrai qu'on avait donc cette volonté d'aller défier un petit peu les conventions cinématographiques, et notamment le fait que la caméra au cinéma articule vraiment le regard cinématographique, elle en est à l'origine, et on en sent la présence évidente. Et pour nous, la traduction de ça, c'était ce panoramique. Alors, c'est pas si évident que ça, en fait, quand on a vu le résultat à l'image. Je pense que ça partait avant tout d'une volonté stylistique et stratégique. Et puis, avec le temps, j'ai eu effectivement l'occasion de réfléchir aux différents sens de ce mouvement-là. Et maintenant, je pense avoir un regard peut-être plus articulé sur le sens de ce mouvement.
Et je vais poser une deuxième question, mais après, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez une remarque. Je pose ma question et après, j'arrive à vous. On voit dans Riddles of the Sphinx une grande présence du souvenir, du rêve et aussi une forte influence de la psychanalyse et de Freud. Je me demandais si vous pouviez parler un peu de votre rapport à ces théories-là au moment où vous faites le film et ce que vous voulez creuser justement à travers ces images.
About chimera dreams, psychoanalysis.
And then Freud, and what was at the time your relationship with those ideas, those theories?
Oh, right. Yeah.
this?
Marion, that's a big question. Yeah. But I think I'll just say that going back to the story of Oedipus was partly to try and retell a well-known story and question it and put back the place of the maternal, as I say in the voiceover, the mother, in a sense, is left behind in the Oedipal trajectory, and we were questioning the way in which both Freud and Lacan leave the mother outside language, outside culture, outside the law, and the child gradually moves into the world of the father, the law of the father, and what Lacan called le symbolique. And we wanted to challenge that trajectory and put the mother back within the story.
Alors c'est une vaste question. En fait, on voulait revenir vraiment à l'histoire d'Oedipe, qui est une histoire très connue, et l'interroger à travers notre film, et notamment celle du rapport maternel qui est très mentionné plusieurs fois dans la voix off, puisque la mère a longtemps été mise de côté dans les récits oedipiens, que ce soit chez Freud, chez Lacan. Elle est hors langage, elle est hors culture, et elle est hors du cadre de la loi. Et nous, ça nous intéressait, au moment où on a un personnage qui, traditionnellement, dans l'histoire, suit la loi du père, notamment ce que Lacan appelle le symbolique, essayer de remettre justement cette mère au cœur du récit et d'observer ça.
Bonsoir, merci pour votre film. J'avais une question par rapport à une partie du film, justement. Je pense que je n'ai pas très bien compris la partie sur la gymnastique et le jeu de couleurs que vous faisiez avec les corps. Je sais que c'est un thème qui est au centre de votre film, mais je voudrais peut-être des détails sur votre procédé, enfin sur ce que vous avez voulu dire à ce moment précis du film.
The colors and the bodies. Can you share details about your intentions?
Yeah.
She didn't quite understand the relationship.
In terms of the symmetry of the film, that sequence balances is symmetrical with the sequence called Stones, which is about the materiality of the stone of the Sphinx statue, and also the materiality of the film material itself. So you zoom in on the film so you can actually see the grain of the film. And so in this sequence, it's also about it's referring to materiality again, and it's using the bodies of the three women gymnasts, in a sense, to think about a pleasure of the body, physicality, the body as material, but one that's to do with play, and referring back perhaps to the way in which small girls, adolescent girls, enjoyed dance, gymnastics, games, and so on, which so often they have to leave behind at moments of adolescence.
Alors, en fait, cette scène, elle fait partie de la symétrie que j'évoquais dans la construction de la structure du film, et elle est directement symétrique avec la scène des pierres. Quand on évoque la matérialité des pierres qui ont servi à la construction des statues de Sphinx, et il y a une référence aussi à la matérialité du cinéma en tant que tel, avec le zoom, par exemple, on va aller zoomer sur le grain de la pellicule. Dans la scène que vous évoquiez, on revient justement à la matérialité du corps avec ces trois femmes gymnastes, et la dimension de plaisir dans les activités corporelles, la dimension ludique qui est très présente chez les jeunes filles, chez les adolescentes. On s'amuse par le corps, on danse, on fait plein d'activités, et puis progressivement à la fin de l'adolescence, c'est une dimension qu'on laisse de côté et qu'on voulait montrer ici dans le film.
Yeah. And so in a sense the opposite of the kind of spectacle of woman in which we have seen so much in the cinema. And also the colors are there also to kind of flatten the screen and again to bring out materiality of the screen itself or something.
Puis aussi c'est un commentaire puisque on voulait aller un peu à l'encontre de la représentation spectaculaire qui est faite généralement dans le cinéma du corps de la femme, et le choix des couleurs c'était une volonté peut-être d'aplatir ces corps pour faire ressortir la matérialité de l'écran.
Merci beaucoup pour votre film. Thank you very much for the film. C'est vraiment fascinant aussi parce qu'il y a différents régimes d'images entre le documentaire, la journaliste qui parle au début, la fiction. Et j'avais peut-être trois questions techniques, si je peux poser trois questions. La première, c'était la hauteur de la caméra pour les 360 degrés. De quelle manière vous avez déterminé cette hauteur ? Qui est ni celle d'un être adulte, je dirais, aux yeux, ni celle d'un enfant, en fait. Donc, à quel endroit elle se place, cette caméra?
So, how do you define the height of the camera?
Okay. Shall I answer that one first?
Yes. Please, thank you.
Is that the first question?
Yes, it's the first one.
The height of the camera in the first sequence was to establish motherhood as a work surface, as a working position, and in that the relationship between the mother and child should be visible through the relationship of the two bodies, rather than setting up an identification with the character in the first instance. So it was important not to see the face of the actor, but to concentrate on her hands and her actions and her relationship to the child at kind of hip height. Hip height means.
Alors pour ce qui est de la hauteur de la première scène, en fait, pour nous, c'était important d'emblée déterminer la maternité comme un travail et de montrer ce rapport mère-enfant par le corps. Et pas de créer d'identification avec le personnage. Donc c'est pour ça qu'on s'est justement retenu de montrer le visage. On montre des mains, on montre des actions. Et en fait, ce rapport entre la mère et ses enfants, il passe par la taille. En fait, on est vraiment concentré sur le bassin, sur la taille.
La deuxième question, c'était sur la place de la mise en scène. How it is staged, for instance, in the supermarket scene. Donc comment vous avez travailler avec le réel pour certaines scènes, et notamment la scène du supermarché, qui est celle où j'imagine que vous n'avez pas eu tous ces figurants, et que comment vous avez travaillé, parce qu'on voit surtout des femmes dans ce supermarché, dans ce centre commercial, mais il y a aussi des hommes, évidemment. Donc comment ça s'est passé, cette scène en particulier, le rapport au réel?
Well, you're quite absolutely right that the idea was to move out of interior enclosed space, which had a kind of poetic resonance of kind of both claustrophobia and comfort, and to move out into the world, and that the plan, as it were, should extend and become wider. In the supermarket scene, we didn't really intervene. We just asked our characters to make certain movements and to walk in and around and out of the shop. So there was no control over the extras, as it were, that all the actual real life shoppers became extras in our movie.
Alors vous avez raison, c'est un moment charnière important dans le film, puisqu'on sort de l'espace domestique qui a une dimension poétique qui renvoie à la claustrophobie et à l'intimité, et on plonge dans le monde réel avec des plans qui deviennent plus larges à ce moment-là. Et vous avez raison sur le fait que dans le supermarché, effectivement, on n'avait pas de contrôle sur la figuration, parce que c'était vraiment des gens qui étaient dans le supermarché à ce moment-là. On a pu en revanche donner des indications à nos personnages sur des mouvements précis, donc on a filmé les deux qui se passaient en même temps.
Et la dernière question, je suis désolé pour toutes ces questions, c'est, je me suis demandé au moment de la scène avec les miroirs, quand elle lit le journal ou les poèmes ou les textes de Maxine, de, est-ce que tout était scénarisé et écrit avant que vous tourniez le film, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées pendant le tournage, des choses que vous avez rajoutées? Parce que comme c'est un film essai, forcément il y a des choses que vous avez vous-même apprises pendant que vous faisiez le film, en fait. Il y a des représentations qui sont apparues pendant que vous tourniez et que vous ne pouviez peut-être pas imaginer aussi précisément avant, pendant le script.
Well, often, of course, that happens, that things occur during the filming that you haven't foreseen. My memory of that sequence is that probably... I mean, the terrible thing is I just can't remember how much was... probably some of it was recorded on sync sound, and then most of it would have been added post-sync afterwards. In fact, I think it must have mainly been post-synchronized because it was very difficult to establish that the cinematographer would be seen just in one specific moment where you see Diane and you see her camera. And I think it would have been too difficult if the sound recordist had been there as well. But my memory is very vague on that. Mostly, I think it was done post-synchronized.
Alors oui, effectivement, ça arrive souvent de devoir intégrer comme ça les imprévus de tournage au film. Pour ce qui est de cette scène, je ne me souviens pas de la part de son direct et de la part de son post-synchronisé. J'imagine que la majorité du commentaire qu'on entend vient de la post-production, a été ajoutée a posteriori. Il y a un seul moment d'ailleurs où on voit Diane, la chef opératrice, avec sa caméra, parce que ça aurait été trop dur. Je pense qu'on est à la fois Diane dans l'image et l'ingénieur du son, donc d'où le fait que la majorité du son à ce moment-là était post-synchronisé.
Was that an answer of a kind?
Yes and no.
Yes and no.
Je voulais poser une question par rapport au film, parce que je l'ai vu aujourd'hui pour une deuxième fois, et j'ai toujours eu la sensation, et aujourd'hui je l'ai vu une nouvelle fois, qu'il y a certaines séquences où vous avez vraiment traduit en images ce qui signifie le concept de charge mentale. Et dans les sens, notamment dans les deux séquences, une séquence à la cuisine et aussi la séquence dans la chambre de l'enfant, tout qui c'est voilà, des petits bouts de pensées qui sont en lien avec tout ce qu'on doit faire, etc. Bon, ça, je trouve vraiment génial comme forme, mais je voulais penser aussi, parce que vous venez d'évoquer l'idée de maternité comme travail, et vous avez parlé aussi dans l'introduction de l'influence des mouvements de libération des femmes. Donc, je me pose la question, par exemple, si à cette époque-là, oui, la demande des crèches, toutes les demandes liées à la vie des mères, c'était des demandes féministes. Quels étaient les types de... Pas les types de féministes, mais qu'est-ce qu'étaient les réflexions féministes qui vous influençaient les plus à l'époque et qui ont vous aidé à faire les films qui... Voilà, notamment lié à toutes ces charges de travail invisible qui aujourd'hui on nomme aussi de care, qui revient notamment aux femmes. Je ne sais pas si j'étais hyper claire, mais un peu.
There's a great translation into images of the invisible work of care.
Oh yeah, yeah.
And
yeah.
At the time, what was the influence of feminist movements in like child care?
Yes.
Or what was the, yes. the influence on the film?
Yeah.
As you were making it.
Yes. I think that there's a kind of strange logic in which the story advances not really with a narrative structure, but by situation and then a situation and then a situation. So it's very manipulated by Peter and me, not so much to tell a story, but to establish these different situations. So we wanted to go from the mother resisting, holding on to her child, holding on to her daughter, emphasizing that invisible labor, and then her being taken into a different situation where she examines the situation of childcare. And definitely around that time, and I think we tried to place the question in the context of the unions and whether the unions were taking women's work and women's position in the workforce seriously. So we incorporated that as a kind of fleeting element. And then, in a sense, return once again to an interiority of a different kind, more to do with language, visualization, and so on.
Alors c'est vrai qu'il y a une logique assez singulière à ces questions dans le film, c'est-à-dire que le film progresse non pas tant en suivant un récit, mais plutôt par situations qui se succèdent, et ça je pense que c'est vraiment l'intervention de Peter et moi, qui ne souhaitions pas suivre une histoire, mais plutôt développer comme ça ces situations. Alors on commence avec justement cette mère qui résiste à sa fille pour souligner ce travail invisible que vous mentionnez, et qui se pose des questions voilà, sur la prise en charge de sa fille par une crèche. Et puis de manière sous-jacente, il y a aussi la question des syndicats, c'est-à-dire est-ce qu'ils prennent au sérieux le rôle de la femme dans la société et le travail de la femme qui est explorée de manière plus furtive dans le film. Et puis au fur et à mesure on revient vers une part plus intérieure avec un retour à la question du langage et de l'image.
Est-ce que Laura, vous pourriez répondre sur l'influence des féminismes ou du féminisme de l'époque sur votre cinéma?
I think it was really, there was a big influence, as I said in my introduction, in making questions of representation political. So it was not only a matter of a critique of the traditional images of women in patriarchy, but it was also a question of how alternative kinds of representation could come into could start to circulate. I think women's activities around film were very important. The organization of seminars, organization of film festivals, the Edinburgh Film Festival always was very supportive of the avant-garde and the feminist avant-garde. So the question of women and cinema, which had never really been articulated so clearly before, became very much into a central question in the kind of alternative cultures of the time.
Ça a eu effectivement une très grande influence, comme je le disais dans mon introduction. On voulait vraiment politiser la question de la représentation, pas seulement par le biais d'une étude critique de l'image traditionnelle patriarcale de la femme au cinéma, mais aussi de proposer et de diffuser des nouvelles représentations de la femme. Et le rôle des femmes à cette époque s'est vraiment développé, que ce soit par l'organisation de conférences, de festivals. Le festival d'Édimbourg notamment nous a énormément soutenus à l'époque, que ce soit le cinéma avant-gardiste et le cinéma avant-gardiste féministe. Et voilà, je pense qu'à l'époque, il y avait un lien qui devenait de plus en plus explicite entre les femmes et le cinéma et comment ça pouvait faire avancer justement cette cause.
And I think there was an interest in recovering women's film, women films made by women that had come in the past and re-evaluating them within the consciousness of the women's movement. And that was an important, very a kind of beginning of a research activity, which was similar, perhaps, to the kind of excavations of lost women artists, lost women novelists, writers. And so around the time, that kind of research activity went along with the critique of patriarchy and, in a sense, the search for the more symbolic realizations of women's language, experience, stories, and so on.
Et puis aussi, on a replacé tous ces films dans un contexte d'apport des femmes au cinéma à l'époque, qui était très riche d'enseignement. C'est-à-dire qu'à la lumière des mouvements féministes, on a pu justement mesurer le travail fait par les réalisatrices, mais aussi par les artistes, enfin les femmes artistes, les autrices, qui sont venues justement alimenter cette dimension critique du patriarcat. Et plus largement, on contribuait à élargir le langage symbolique artistique de l'époque.
Je sais
pas. So I suppose you could say that, again, as I was trying to say at the beginning, a range of activities, writing, research, programming, curating, filmmaking was only one, in a sense, of the activities that were influenced by the women's movement and feminism at the time.
Et puis pour revenir sur une idée que j'ai développée dans mon introduction, le spectre des activités qui venaient justement nourrir les mouvements féministes était très vaste. On parle d'écriture, de programmation, de commissariat artistique, et faire des films n'est qu'une partie de ce spectre-là, une des activités qui a justement influencé les mouvements féministes de l'époque et leur a permis de se développer.
Je ne sais pas s'il y a une dernière question dans la salle. Alors, tout de suite. Bonsoir. Lorsque vous avez fait le film, où est-ce qu'il a été diffusé et quelle a été la réception?
What was the film screened at the time and how did people react to it?
With great difficulty. The story of its reception is complicated because in some ways it made a mark at the time, but only in quite a small world, the world of our avant-garde feminist milieu. It made quite an impression. It was written about, it was screened in festivals, and so on. But I think the impact was quite restricted. And this was still the world of projection. Then I'd say that it disappeared. It got lost. The prints deteriorated. It was difficult to show the film. In the end, it was no longer in circulation. And it's really come back recently, since it was restored by the British Film Institute with a DVD Blu-ray, which is very good quality. But also, I think it's important and interesting to emphasize that there's an interest among a younger generation of looking back at the times and the experiments and the feminisms of the 1970s. And I was just thinking the other day that it's about the same distance in time between now and the avant-garde experiments of the 1970s and its 1970s-60s fascination with the avant-garde experiments of the 1920s. So it's as though, again, to come back to Marion's idea of a revolution and things kind of coming around, we could say this is another example of a 360-degree pan.
Alors l'accueil a été assez difficile à l'époque, c'est une question assez compliquée parce que je pense que le film a eu un vrai impact sur le monde dans lequel il a été projeté, c'est-à-dire l'avant-garde féministe. Il y a eu un certain nombre d'articles qui ont été projetés, un certain nombre de projections, notamment au festival, mais mine de rien, c'est un impact qui a été relativement limité à ce monde de projection. Le film a disparu ensuite, il a été perdu, les copies ont été abîmées, c'était difficile de le montrer à ce moment-là. Et puis il est revenu notamment grâce à la restauration qui a été faite par le Centre du cinéma britannique à l'occasion d'une sortie DVD et Blu-ray du film. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une jeune génération qui porte un intérêt pour le film maintenant et qui se penche de manière plus globale sur les travaux féministes d'avant-garde des années 70. D'ailleurs, je constate que maintenant, il y a le même écart de temps entre aujourd'hui et les avant-gardes des années 60-70 et la fascination qu'on pouvait avoir pour les avant-gardes des années 1920. Donc, on revient un petit peu à l'idée de Marion d'une révolution qui a fini d'atteindre ses 360 degrés, finalement.
Sur ces derniers mots, Laura, merci beaucoup pour votre présence. Émile, merci beaucoup pour l'interprétariat de très, très grande qualité. Merci à vous d'être resté et le cycle continue. Mais voilà, merci encore Laura, c'était un grand moment pour le cycle.